L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous,
les sans les roues,
les.
C'est dans le.
Les lents, lents des roues, le.
En espagnol?
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, les rendez-vous de l'Opéra Studio.
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 Chères auditrices et auditeurs fidèles des rendez-vous de l'Opéra Studio, grand bonjour bienvenue de cette nouvelle émission dans laquelle je vais recevoir, alors aujourd'hui, attention, un chef d'orchestre, monsieur Anthony Fournier. Bonjour Anthony.
Bonjour Sandrine.
Alors Anthony est un jeune musicien très talentueux qui a intégré la promotion de l'Opéra Studio de cette saison à l'ONR. Donc je rappelle ce qu'est l'Opéra Studio en quelques mots. L'Opéra Studio est une cellule d'insertion professionnelle pour jeunes artistes en début de carrière. Et cette cellule est basée à Colmar. Et donc, des jeunes artistes, pendant toute une saison, sont en répétition dans les locaux de la Comédie de Colmar, enfin la manufacture. Nous sommes au troisième étage et tous les jours, ça chante, ça joue du piano, ça dirige, ça voit du répertoire lyrique, mélodie, etc. En fait, on ne s'ennuie pas à l'Opéra Studio. Donc, cher ami Anthony, tu es chef d'orchestre. Est-ce que tu es tout simplement issu d'une famille de musiciens ou bien est-ce que toi, enfant, tu as eu envie d'être musicien?
Alors plutôt la deuxième solution, puisque mes parents ne sont pas du tout musiciens, bien qu'ils aiment beaucoup la musique. Alors j'ai commencé la musique avec le violon, de façon tout à fait, on va dire tout à fait par hasard. J'ai entendu un copain de classe qui était venu jouer juste avant les vacances de Noël, douce nuit, simplement, au violon. Et je suis arrivé le lendemain chez mes parents, ou le soir même, et je leur ai dit, je veux faire du violon. Et comme je faisais beaucoup de choses déjà à l'époque, mais en l'occurrence du sport, mes parents se sont dit, bon, bah, il a déjà beaucoup, ça lui passera. Sauf que ça m'a pas passé, et pendant de longs mois, de longues semaines, je leur ai dit, je veux faire du violon, je veux faire du violon. Et finalement, quelques mois plus tard, ils se sont dit, bon, bah, on va quand même lui laisser la chance d'essayer le violon, que je n'ai jamais quitté jusqu'à quelques... disons que j'ai jamais quitté le violon, mais après, il y a eu la direction qui est arrivée dans ma vie.
D'accord. Et donc, tu as commencé l'étude du violon à quel âge ?
J'avais 9 ans.
Ah oui, très bien. Donc, assez jeune quand même.
Oui, oui.
Et puis, c'est bien, pas trop jeune, parce que parfois, il y a des jeunes, des enfants qui commencent l'étude de la musique très, très jeune. Bon, c'est peut-être pas obligatoire. En tout cas, la preuve en est, à 9 ans, on commence à faire du violon et tu as...
Je viens d'avoir 30 ans il y a quelques jours.
Chef d'orchestre, c'est pas trop mal, pas trop mal. Et donc, comment... Alors du coup, tu as commencé avec le violon, et comment est née cette envie de finalement vouloir diriger un orchestre et de vouloir faire la musique plus autrement? Parce que quand on est violoniste, on est dans l'orchestre, et quand on est chef, on est devant l'orchestre. Alors pourquoi as-tu souhaité ce changement?
Alors ça s'est fait un petit peu par la fatalité ou le hasard de la vie, puisque à 25 ans, j'ai eu une dystonie de fonction en tant que violoniste, c'est-à-dire une espèce d'affection musculaire. C'est une espèce de pathologie qui n'est pas encore très claire, qui est difficile à soigner. Et dans mon cas, je n'ai pas réussi à soigner malgré la rééducation, malgré les injections de Botox. Voilà, en fait, c'est nos muscles, en l'occurrence des doigts de la main gauche, qui ne répondaient plus. Ce qui fait que, voilà, c'est pour le violon, déjà, où on n'a que 4 doigts à utiliser, on en a besoin. Et après, je me suis dit, je vais commencer une rééducation, il y a eu le Covid en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant, à côté de la rééducation, qui me satisfasse et qui reste dans la musique? Et je me suis dit, en fait, chef d'orchestre, ce serait une bonne idée. Surtout que, étant plus jeune, j'ai toujours pensé, Mais ayant eu un parcours de violoniste quand même assez chargé, je ne me suis jamais lancé par faute de temps. Et là, l'opportunité est arrivée, je l'ai saisie. Et c'est comme ça que j'ai commencé la direction d'orchestre.
D'accord, donc en fait, tu es rentré au conservatoire. Comment as-tu fait ? Parce que tu étais très avancé en violon, puisque tu en faisais depuis des années. Donc, tu es reparti, tu as repris des études, ou bien est-ce qu'on peut glisser comme ça avec tout ce que tu avais appris déjà avec la pratique de ton instrument ? Est-ce que ça a été plus rapide, finalement, que si tu avais commencé au tout début ?
Alors, je pense que, clairement, l'expérience que j'ai eue comme violoniste et dans l'orchestre et comme musicien de chambre ou soliste a été clairement et est toujours effectivement quelque chose non négligeable en fait. C'est une expérience qui est super importante et qui forcément m'a aidé à aller peut-être un petit peu plus vite. Après, effectivement, je suis encore en études à la Haute École de Musique de Lausanne, je finis cette année. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien à voir, parce que la direction d'orchestre, c'est quand même un métier à part entière. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été violoniste m'a beaucoup aidé dans le chemin de la direction.
Oui, je comprends, bien évidemment. Donc, tu dis que tu es encore à Lausanne étudiant. Pourquoi as-tu souhaité, parallèlement à cette formation, intégrer l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin ?
Eh ben, simplement parce que c'était déjà un challenge et qu'en tant que chef, on a besoin d'opportunités de diriger parce que finalement, l'orchestre, c'est notre instrument. Et un musicien qui commence le violon à l'âge de 9 ans, on va dire, comme ça a été mon cas, il arrive à, je sais pas, à 20, 25 ans avec des milliers d'heures de vol, on va dire, d'instruments. Est-ce que le chef... n'a pas, puisque c'est très compliqué de pouvoir diriger un orchestre, parce que ça coûte de l'argent, il faut réunir beaucoup de monde, voilà. Mais c'est finalement notre instrument, et c'est pour ça qu'on dit souvent que le métier de chef d'orchestre est un métier un petit peu pour les vieux, mais c'est notamment, je pense, aussi parce que peut-être à l'âge de 60 ans, un chef a collecté le nombre d'heures de vol d'orchestre qu'un musicien, un pianiste, aura eu à 25 ans. Donc, l'Opéra National du Rhin, en tout cas l'Opéra Studio, permet justement de s'insérer clairement dans le métier, d'avoir la possibilité de diriger des productions, d'assister des chefs et de gagner en expérience. Et c'est ce qui est super important pour un chef finalement.
D'accord. Quand tu dis assister des chefs, en quoi ça consiste exactement ?
Alors, ça peut aller du simple... de régler une simple balance d'orchestre, c'est-à-dire l'équilibre entre le chanteur et l'orchestre pendant une répétition, devoir remplacer le chef en concert, par exemple. Donc, pour mon cas, j'ai la chance, en tout cas cette année, de pouvoir faire pas mal de répétitions, comme les chefs sont régulièrement absents, donc c'est moi qui ai les répétitions en charge. Ce qui fait que ça nous forge, évidemment, techniquement, ça nous apprend finalement le métier et ce pourquoi je suis là. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu être le bras droit du chef et beaucoup d'autres choses.
Oui, c'est ça. Donc en fait, tu l'assistes, tu es finalement ses oreilles, parce que quand on dirige, quand on est devant l'orchestre, dans une fosse d'orchestre avec les chanteurs sur la scène, on ne se rend pas forcément compte de l'équilibre des nuances, c'est-à-dire si l'orchestre est trop fort, pas assez fort par rapport aux chanteurs, qui ne sont pas toujours bien disposés, enfin disons, ils ne sont pas sur le bord de la scène tranquillement à chanter. Les chanteurs doivent faire également, sont des acteurs et sont sur toute la scène. Et si un chanteur est trop au fond, en fond de scène, il peut arriver que l'orchestre soit obligé de baisser un petit peu la nuance, c'est-à-dire jouer un petit peu moins fort, ou bien si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, le metteur en scène, le chef d'orchestre discute entre eux et le metteur en scène change un tout petit peu sa mise en scène pour que la musique ne pâtisse pas de l'image scénique qu'il veut créer. Donc tout ça est très intéressant, et donc toi tu es dans ce processus de création également, tu es cheville ouvrière finalement.
Exactement,
aussi.
Oui.
Non mais c'est très 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 intéressant. Et en fait, c'est quand on va à l'opéra et qu'on voit le spectacle, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Et dessous, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de répétitions, de réunions, de réglages en tout genre. Non, c'est ce qui fait la magie à l'opéra. Ça, c'est absolument. Une chose qui... L'opéra est un genre qui réunit tellement, tellement de métiers. différents pour arriver à cette œuvre-là qui est éphémère, qu'on joue, et puis voilà, qu'on répète beaucoup, qu'on joue 5-6 fois, et puis hop, voilà. Mais c'est ce qui est beau. Mmh. C'est ce qui est beau. Avant de décortiquer ton métier de chef d'orchestre, et puis la formation, et puis surtout les opportunités que tu es venu trouver à l'Opéra Studio, je voudrais qu'on écoute le premier extrait que tu as choisi de nous faire entendre, et qui est un extrait assez inattendu, finalement, pour une personne de ton profil. Est-ce que tu peux nous présenter en deux mots le premier extrait ?
Alors, c'est la Bohemian Rhapsody, la fameuse Bohemian Rhapsody du groupe Queen, que j'ai choisi pour des raisons très simples. C'est que c'est une... Je suis un fan du groupe et j'aurais pu choisir d'autres extraits moins connus, mais je pense qu'on est quand même avec cette pièce sur quelque chose, enfin, sur, pour moi, un chef-d'œuvre. Et depuis petit, de par mon papa aussi qui écoutait ce groupe, j'ai grandi un petit peu avec ça, j'ai traversé l'adolescence aussi avec ce groupe. Et j'ai toujours été fasciné par la voix de Freddie Mercury qui, peut-être, m'a donné un petit peu le goût de vraiment de la voix, enfin de l'instrument qu'est la voix. Il a quand même un organe assez impressionnant. Et j'ai toujours dit dans mon coin que peut-être Queen, dans ses compositions, avait un petit peu de musique classique dans son style. Donc c'est pour ça que je suis un grand fan de ce groupe.
Eh bien, écoutons cet extrait de Queen Bohemian Rhapsody.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Après cette Bohemian Rhapsody du groupe Queen, qu'on écoute toujours avec un immense plaisir, revenons au métier de chef d'orchestre, cher Anthony, puisque c'est là ton métier. Et peux-tu nous dire Quelles sont les étapes de la formation d'un chef et plus particulièrement de la formation d'un chef lyrique, c'est-à-dire un chef qui dirige des chanteurs, qui dirige des opéras?
Alors, je peux partir dans deux directions. C'est mon cas personnel et un cas peut-être plus classique, mais pour mon cas, c'est j'apprends un petit peu sur le tas, on va dire, parce que comme j'ai dit avant, j'ai fait beaucoup d'orchestre en tant que violoniste, notamment aussi de l'opéra. C'est là aussi qu'a grandi mon amour pour l'opéra. Mais en tant que chef, je me suis vraiment lancé. C'est la première fois que je faisais de l'opéra en tant que chef et j'étais très curieux et je suis très content de pouvoir le faire. Donc moi, j'aurais tendance à dire que voilà, c'est un petit peu la vie qui m'apprend au moment présent. Mais c'est vrai que sinon, la formation classique d'un chef, je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est de savoir jouer d'un instrument, enfin de savoir très bien jouer d'un instrument même, voire plusieurs instruments, parce que dans un orchestre, on a toute une palette d'instruments différentes. Et ça, je pense que c'est assez important. L'expérience vient avec le temps, évidemment. Après, lyrique, ben voilà, moi j'apprends tous les jours, je suis content de pouvoir apprendre parce que c'est vrai que les chanteurs sont quand même des animaux, si j'ose dire, très curieux et incroyables. En fait, c'est un monde qui s'ouvre devant moi et qui est simplement génial. Rien que par le fait que l'instrument est à l'intérieur d'eux, et c'est quand même le seul instrument qui est à l'intérieur du corps, qu'on ne voit pas. Et il y a plein de choses qui se passent et ils ont une façon aussi forcément... Il y a une façon de travailler, peut-être d'appréhender la musique qui est différente avec des chanteurs qu'avec des instrumentistes. Donc la formation, elle peut être très classique. On peut aller dans un conservatoire, apprendre la direction d'orchestre. Mais je pense que, typiquement, je crois qu'à l'époque, les chefs d'orchestre devaient d'abord apprendre l'opéra avant de passer au répertoire symphonique. Et malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, mais je trouve que c'est dommage parce qu'à l'opéra, finalement, on a tout. Mmh. On a les chanteurs, l'orchestre, on a la mise en scène, on a les décors. C'est un monde incroyable. Et techniquement, je pense aussi que c'est peut-être même plus compliqué que le répertoire symphonique, simplement parce qu'on doit gérer et le plateau et la fosse avec l'orchestre. On a des récitatifs, on a ce genre de choses qui rendent le métier compliqué, mais tellement complet que c'est génial.
Et donc, comment se déroulent des répétitions d'opéra? Alors, pour un chef d'orchestre, à quel moment entre-t-il en scène, si on peut dire, la première répétition, quelle est-elle? Enfin, quel est le processus de création d'un opéra, finalement, vu par un chef d'orchestre?
Oui, alors en fait, c'est très intéressant parce que je pense que peu de monde savent que finalement, une production d'opéra se débute 6 semaines, environ, ça dépend des productions, mais environ 6 semaines avant la première représentation. Et si on compte encore, évidemment, le travail personnel, c'est des mois encore avant. Ouais. Et c'est incroyable, parce que c'est une énorme machine, justement. Alors, en général, on a le chef d'orchestre réunit tous les chanteurs et a une répétition qu'on appelle musicale, où il va... si on veut passer l'opéra avec un pianiste, non pas avec l'orchestre, parce que l'orchestre, on a beaucoup de musiciens et ça coûte cher, donc on prend des pianistes pour les premières semaines et ils vont simplement parler de musique à cette première répétition, comment ils voient les choses, comment les chanteurs, et essayer de trouver des accords, essayer d'avoir une idée générale de l'opéra, et s'en suivent ensuite plusieurs semaines avec des répétitions scène piano qu'on appelle, et là ça sera plutôt le rôle du metteur en scène qui va, par rapport au livret, par rapport à l'histoire de l'opéra, va mettre en scène finalement tous les mouvements, le théâtre qui propose en fait finalement dans l'opéra, et en fait c'est quelque chose d'assez fou parce que les chanteurs, c'est quelque chose d'assez fascinant de voir des chanteurs qui non seulement doivent assurer leur propre rôle qui est déjà difficile parce qu'un chanteur n'a pas d'instrument, il est comme on dit à poil, hein, devant
c'est
un public,
ça. Et puis par cœur, il sait tout par cœur,
et
donc après il est sur la scène et le metteur en scène lui donne les indications de mise en scène,
exactement, et ensuite du coup en plus de son rôle de chanteur doit avoir ce rôle de bouger, de reculer, de crier, de pleurer, de chanter couché, assis dans des positions parfois très inconfortables.
C'est vrai.
Et donc ça prend beaucoup de temps, ça prend moins des semaines. Et finalement, petit à petit, on met des petits bouts d'opéra ensemble, on les monte, on arrive à monter un acte, hein, deux actes, et finalement on a, après quelques semaines, une générale, toujours avec le piano, avec les costumes, pour voir un petit peu ce qu'il en est, avant d'arriver à l'orchestre. Et l'orchestre arrive en général une semaine avant la première représentation, et l'orchestre finalement, ça fait toujours du bien quand l'orchestre arrive, parce que, pas que je dénigre le piano, j'adore le piano, mais et il nous aide tellement. Mais quand on a vraiment les couleurs de l'orchestre, que vraiment ce que le compositeur a voulu, oui, avec les chanteurs, c'est simplement le monde qui s'ouvre. Et ça devient, en fait, tout prend forme à ce moment-là. Et là, il y a des ajustements à faire, ce genre de choses. Et finalement, on a la première. Donc c'est vraiment un gros travail, une grosse machine, avec des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent. Donc c'est fantastique.
Oui, c'est vrai que on ne se doute pas, quand on va voir un opéra, peut-être, de la quantité d'heures de travail et le nombre de personnes qui sont derrière pour que tout ça puisse avoir lieu. C'est vrai. Et quand tu disais tout à l'heure que parfois tu dirigeais quand le chef était absent, eh bien, c'est vrai que il arrive souvent que pendant les répétitions de mise en scène avec piano, ait lieu des répétitions avec orchestre, sans les chanteurs, parce que tout d'abord, tout le monde doit répéter de son côté pour être prêt après à aller à la rencontre des autres et faire la musique et créer l'opéra ensemble. Donc c'est ça aussi ton métier de chef d'orchestre assistant à l'Opéra National du Rhin, dans la mesure où si le chef est absent parce qu'il a une répétition avec l'orchestre, toi tu es là en scénique piano, donc tu dois veiller à ce que tout soit musicalement en place pendant les répétitions de mise en scène. Parfois même il y a ce qu'on appelle des bandas selon les opéras, c'est-à-dire que parfois il y a des musiques de scène. Et c'est-à-dire que pendant que le chef dirige en représentation l'orchestre, il arrive que sur le plateau, derrière, en coulisses, il y ait des formations plus petites de musiciens pour faire ce qu'on appelle des bandas ou bien des musiques de scène. Par exemple, il y en a dans Rigoletto, dans Traviata, je crois, enfin dans plusieurs. Et souvent, ce sont les chefs d'orchestre assistants qui sont chargés de diriger ces orchestres-là, ou bien parfois. Donc, c'est pour dire que il y a beaucoup de choses qui se passent dans un opéra. On voit finalement très peu, parce qu'on voit toujours les chanteurs, on voit l'orchestre, on voit le chef. Voilà, c'est tout. Mais derrière, on a les costumiers, toutes les personnes qui ont fait les créations lumière, les techniciens lumière, les techniciens son. Enfin bon, c'est un monde, c'est incroyable. En fait, je pense que si un jour vous avez l'opportunité d'aller voir un opéra de derrière, c'est-à-dire dans la coulisse, assis là comme ça, juste à côté du régisseur général, mais c'est au moins aussi intéressant de voir tout ce qui se passe derrière. C'est incroyable. Fermons la parenthèse. Est-ce qu'il t'arrive parfois de travailler avec les jeunes artistes de l'Opéra Studio, c'est-à-dire les chefs de chant, les pianistes chefs de chant, donc les futurs pianistes qui seront dans les opéras pour jouer la réduction d'orchestre, quand même, ce n'est pas rien, des opéras pour les répétitions mises en scène, et puis les futurs chanteurs que tu verras plus tard sur les plateaux du monde entier, ce que j'espère pour toi, pour eux, pour ouais, tout le monde. Est-ce que ça t'arrive de les
travailler avec eux ? Oui, bien sûr. Alors, en l'occurrence, cette semaine, j'ai quelques jours, et la semaine passée, la semaine suivante et la semaine prochaine, finalement, ça fait plus qu'une semaine,
oui,
où on se voit. Et en fait, c'est super intéressant, comme on est tous à peu près dans la même énergie, on est tous un petit peu en début de parcours, mais quand même avec une certaine expérience. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on ose se partager des choses qu'on n'oserait peut-être pas, étant jeune, à un chef plus expérimenté ou à des chanteurs plus expérimentés. C'est-à-dire que là, on ose se dire, bah ici, moi je pense ça, mais qu'est-ce que tu penses de ton expérience de chanteur que moi je connais pas, et inversement, qu'est-ce que tu penses de ton expérience de chef, et on fait tout ça dans la bonne humeur, dans la bienveillance, et je trouve c'est super enrichissant d'avoir l'occasion de se réunir, et surtout que le niveau est, enfin ils sont vraiment super, ces chanteurs et chanteuses. Super ambiance, enfin, vraiment c'est du plaisir, quoi.
Oui, c'est comme un laboratoire, en fait, c'est le petit laboratoire juste avant de sauter dans le grand bain.
Exactement.
Finalement, ouais. Oui, mais c'est bien, mais ça, je pense que c'est effectivement ce que tu dis, dans la bienveillance et dans le il n'y a pas de problème, on peut tout se dire, voilà. Et c'est intéressant, parce que après, dans le métier, bien sûr on peut dire les choses, mais il faut faire un petit peu plus attention, parce que d'abord on ne connaît pas trop les personnes, voilà, donc on ne sait pas, on peut être maladroit sans faire exprès. Donc il faut faire attention, les gens sont parfois très fragiles. Et c'est très bien. Non, mais en effet, je pense que cette cellule de formation, pour ça, est très intéressante pour vous, jeunes artistes, parce que justement, ça vous donne la force. C'est toutes les questions que vous pouvez vous poser avant de sauter d'un grand bain, vous pouvez vous les poser là, maintenant. Et ça, c'est très, très appréciable et je pense très formateur pour vous. Est-ce que tu penses, revenons un petit peu avec le répertoire lyrique, sur le répertoire lyrique et symphonique, est-ce que tu penses qu'un chef d'orchestre peut mener une double carrière de chef de lyrique, c'est-à-dire d'opéra, et chef symphonique ?
Oui, oui. Alors, je pense que c'est non seulement possible parce qu'on a des exemples. Après, c'est quand même assez rare parce que malheureusement, on est vite connoté, il fait de l'opéra, il fait du symphonique et malheureusement, beaucoup de maisons ont peut-être, sont un peu frileux peut-être de prendre un chef qui a moins l'habitude de faire de l'opéra et inversement. Et c'est vrai qu'on peut vite avoir une connotation, il fait de l'opéra, donc on ne va pas l'inviter pour du symphonique. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment deux métiers qui sont vraiment assez différents et qui sont pour moi vraiment complémentaires. Et moi, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire les deux parce que je pense que les deux sont indispensables et me tiennent vraiment à cœur.
Oui, je comprends. Je pense assez comme toi, en effet. Ça peut être très enrichissant de faire les deux, et c'est très enrichissant de toute façon de faire les deux. Nous allons faire une deuxième petite pause pour écouter à présent un extrait de la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler, La Résurrection. Eh bien, tu as choisi la version dirigée par Leonard Bernstein et il est face au London Symphonic Orchestra. Nous écoutons donc cet extrait.
Thank you.
quelle puissance d'interprétation que nous retrouvons ici dans cet extrait de la symphonie numéro 2, dite Résurrection de Gustav Mahler, dirigée par Leonard Bernstein, excusez du peu. Pourquoi as-tu choisi ce deuxième extrait?
Je sais pas, on s'est regardé les deux pendant l'extrait. Enfin, pour moi, il y a une phrase de Victor Hugo qui dit à peu près la musique exprime ce que les mots ne peuvent pas exprimer ou quelque chose comme ça. Et pour moi, cette phrase prend tout son sens dans ce final de symphonie. Enfin, c'est juste hallucinant. Et si je peux conseiller vraiment à des gens qui ont un peu d'appréhension avec le classique, juste d'aller voir. Bon, alors c'est une symphonie qui dure quand même une heure et demie. Mais juste d'aller voir cette symphonie et d'avoir, je sais pas, 150 personnes sur scène avec un chœur, avec des solistes, un immense orchestre, de se recevoir, je sais pas, 120 décibels dans la tronche, c'est juste une expérience. Non, mais c'est un truc qu'il faut vivre. C'est ahurissant. Et, ouais. Et pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de la jouer deux fois comme violoniste, je crois 2015-2016. On avait le concert et la répétition générale le matin, et il y avait un monsieur par hasard que j'ai croisé qui était un des choristes du chœur, et par hasard on discute un tout petit peu à la répétition, et qui me glisse à la fin de la discussion qu'il est en phase terminale d'un cancer et que voilà, il en a plus pour long. Et voilà, j'étais un petit peu bouleversé par une petite discussion, et il me glisse ça, et le soir on a le concert, et justement ce moment, ce final, et en plus Gustav Mahler a titré Résurrection, on peut imaginer que tout ce dernier mouvement c'est une méditation sur la mort, la résurrection, la vie après la mort, en apothéose, et chaque fois j'entends cette musique, ça me fait penser à ce moment là et je pense que ce jour-là, cette musique a pris tout son sens avec ce monsieur. J'étais vraiment bouleversé. J'espère que lui aussi aura passé vraiment un moment d'extase, parce que c'est juste incroyable.
Oui, oui. Je comprends. Oui, c'est très touchant. Oui, c'est assez émouvant. Oui, bien sûr. Un chef d'orchestre, ça se détend de temps en temps. Que fais-tu pour te détendre, cher Anthony?
Oui, un chef d'orchestre, c'est avant tout un humain comme les autres.
Bien.
Et non, alors pour me détendre, je fais des choses très basiques. Enfin, j'aime bien juste rester à la maison. Ça peut être faire une petite bouffe, ça peut être regarder des vidéos, regarder un film, aller faire un petit tour avec mon petit chien, ma petite femme, et puis juste tranquille. Rien de spécial, les plaisirs simples de la vie, on va dire.
Mais c'est ça, c'est la sagesse, cher Anthony.
Oui,
c'est
ouais,
ça,
c'est
exactement.
Ça.
Et donc, pour être chef d'orchestre, est-ce que tu donnerais quelques conseils à de jeunes musiciens qui se destineraient à cette carrière?
Alors, je ne sais pas si je peux donner des conseils. Par contre, il y a une chose que je suis assez convaincu, c'est que... Mais je pense que c'est une généralité dans la vie, c'est que si on veut faire quelque chose, il faut avant tout être passionné. Et que si on a la passion, on aura l'envie, et des embranchements vont se créer en conséquence pour qu'on arrive à nos fins finalement. Donc, je pense que vraiment l'envie, la passion, c'est le moteur qui fait qu'on peut arriver à ce qu'on a envie d'arriver. Donc c'est tout ce que je peux dire.
Ce sont de très bons conseils, je pense. Et donc, pendant la saison à l'ONR, qui va durer donc cette année, et puis voilà, jusqu'à juin de cette année, 2024, est-ce que tu vas... quels opéras vas-tu aborder? Et puis surtout, la grande question, est-ce que tu vas en diriger un en spectacle?
Alors, on a commencé avec la première production qui était L'Acmé de Léo Delibes,
oui.
qui est terminée. On va se projeter maintenant sur Lohengrin de Wagner dans quelques semaines, où j'assisterai aussi le chef. Et on arrivera ensuite à Guerre-Cœur, un opéra assez peu connu d'Albéric Manière, puisqu'il a été donné... en 1931, et sauf erreur, peut-être encore une fois depuis, mais il a été enregistré quand même en 86. Et ça, j'aurai l'occasion de le diriger en collaboration, en duo avec le chef Ingo Metzmacher. Mm-hmm. Et donc j'aurai quand même deux représentations sur cet opéra qui est... Enfin, j'ai découvert ça en fait l'année passée. C'est juste incroyable. Enfin, je suis super content parce que c'est vraiment un style de musique que j'affectionne vraiment, très romantique. Il est en français, il a un sujet aussi très... je trouve qu'il touche, même s'il part un petit peu dans des... voilà, on commence avec, on n'est pas sur Terre, on est avec le personnage qui est mort, qui est peut-être dans les cieux, on le dit, c'est pas vraiment expliqué, mais avec des personnages célestes. Mais finalement, il y a beaucoup de sujets très simples et qui nous touchent tous, être humain, la souffrance, la désillusion, les regrets, qui sont abordés de manière très intelligente et sublimés par une musique absolument fantastique. Donc je suis vraiment content et je me réjouis parce que c'est vraiment de la belle musique. Et pour finir, jusqu'en juin 2024, on termine la saison avec Norma de Bellini, aussi de l'opéra italien. Donc on va un petit peu toucher à tous les styles. Donc c'est génial pour découvrir l'opéra, d'avoir quatre opéras de styles différents, c'est génial.
Alors nous allons écouter un troisième extrait le troisième extrait que tu as choisi de nous faire entendre. Et justement, c'est un extrait de cet opéra d'Albéric Magna, Guercœur, et c'est la scène 5 du tableau 2 de l'acte 2, et c'est un air qui est chanté par monsieur José Van Damme. C'est monsieur Michel Plasson qui dirige l'orchestre du Capitole de Toulouse.
Thank you.
quelle belle invitation au voyage nous est offerte ici par la belle musique, la musique incroyable de monsieur Albéric Magnard dans son opéra Guerre-Cœur. Et là, nous écoutions monsieur José Van Damme qui chantait si cruelle, si touchante, si traîtresse, si belle. Voilà, c'était l'orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par monsieur Michel Plasson. Nous arrivons au terme de cet agréable moment passé en ta compagnie, cher Anthony. Nous allons procéder au traditionnel portrait chinois. Donc, c'est parti. Si tu étais un peintre...
Monet.
Monet. Si tu étais un paysage...
Les montagnes de chez moi, les montagnes valaisannes.
Attention, tu vas te faire des ennemis. Hein,
oh,
parce que les Vosges, elles sont bien. Si tu étais un moment de la journée...
Le soir.
Bon, si tu étais une salle de concert.
Difficile, mais probablement le KKL à Lucerne.
Ok, si tu étais un opéra.
C'est pas une question facile, mais je pense que je pourrais pas en citer parce que dans les opéras, c'est souvent des tragédies. Et je pense que ma vie est plutôt bien l'inverse de ça, donc je crois que je pourrais pas me...
Alors peut-être tu aurais, si tu étais une opérette, alors peut-être.
Ah oui, peut-être.
Alors là, on a le choix, parce qu'on a la
choix,
bonne humeur.
C'est vrai qu'on a la bonne humeur, mais on a aussi des choses... Non, alors je vais pas répondre,
Ok,
à ça.
Ok, d'accord, on passe. D'accord, c'est le joker. Si tu étais un artiste...
Je reviens peut-être à Freddie Mercury.
Ben oui, c'est pas si mal. C'est même très bien. Si tu étais un type d'art ?
La musique.
La musique,
clairement.
Ok. Et si tu étais un compositeur ?
Eh ben, je vais pas être très original non plus. Je pense que je prendrais Gustave Mahler.
C'est un très bon choix. Alors, si tu étais un trait de caractère, tu me disais tout à l'heure, avant de commencer l'émission, que tu ne savais pas trop quoi répondre à cette question-là. Donc, je vais tâcher d'y répondre moi. Donc, trait de caractère, moi, je dirais... solaire, toujours de bonne humeur, toujours... enfin, de ce que j'ai vu.
C'est ça, exactement. Mais c'est gentil,
de
je prends.
De ce que j'ai vu. Non, mais les chanteurs ont beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Les pianistes, chefs de chant également. Donc, je dirais une très belle personnalité à qui je souhaite un très beau chemin artistique et professionnel. Chers
Merci
amis
beaucoup.
Auditrices et auditeurs, au revoir. Merci beaucoup pour ce moment très agréable, une fois de plus passé en compagnie d'un jeune artiste. Je dis merci à notre super Francis qui a réalisé cette émission et je vous dis à très bientôt. Soyez heureux, écoutez de la musique, chantez. Au revoir.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça. Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est donc.
Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les